cobuzz.com.
Rencontre par Marc Zisman.
Bonjour Christina Pluart.
Bonjour.
Alors vous publiez chez Virgin Classics un album qui s'appelle Teatro d'Amore, autour d'un compositeur, je crois que vous aimez beaucoup, Monteverdi, et qui donc des œuvres essentiellement vocales, mais pas uniquement justement. Alors pour tout simplement commencer par une question un peu basique, c'est comment est né ce projet ?
Ah, oh, ça, c'est une longue histoire.
Courte question, longue histoire, longue réponse.
Oui. En fait, c'était un projet qui est dans ma tête depuis très, très longtemps, bien sûr, parce que Monteverdi, c'est le compositeur du XVIIe siècle. Donc, disons, de la musique que je défends avec mon ensemble depuis la création de mon groupe. Mais en fait, plus précisément, c'était, évoqué avec un festival, en collaboration avec un festival, ces projets. Donc il y avait le directeur du Festival d'Utrecht, qui est un grand festival de musique ancienne en Hollande, qui m'a proposé d'être artiste en résidence pour sa édition du Festival 2006. Et ça voudrait dire qu'on a eu l'occasion de tourner plusieurs concerts dans les festivals. Mais pas seulement ça, il a mis à disposition une salle où se passent tous ces concerts et où on fait aussi des enregistrements, qui est vraiment une salle extraordinaire. Donc c'est une salle, elle s'appelle Freilenburg. Et c'est une des plus belles salles de concert vraiment en Europe. Enfin, l'acoustique est vraiment merveilleuse. Et on a donc eu la chance d'enregistrer ce projet Monteverdi dans cette salle avec cette merveilleuse acoustique. Donc on était très, très contents de pouvoir faire ça dans ces conditions-là.
Au niveau du projet lui-même, du choix, que ce soit des œuvres, une sorte de collage, enfin, il y a un montage qui est très personnel, avec vraiment des choix au niveau des voix. Il y a Philippe Jarouski, Nuria Ariel, etc. Comment c'est fait ? Est-ce que ça s'est fait progressivement ? Vous avez vraiment tout en tête ? Comment s'est construit vraiment le projet artistiquement ?
En fait, effectivement, vous avez évoqué, c'est un projet très personnel, mais ce n'est pas différent que les autres projets que j'ai faits. C'est un peu la philosophie et puis le travail qu'on défend. Et en fait, tout premièrement, j'ai voulu j'ai voulu construire ce projet dans la même fraîcheur et la même. Avec le même regard sur ce compositeur que, par exemple, les autres compositeurs qu'on a fait, comme Landi ou d'autres compositeurs. La seule différence était que Landi, personne ne connaissait, et puis Monteverdi, tout le monde connaît. Mais si vous comparez les deux projets, ils sont vraiment très... Vous comprenez, vous comprenez la ligne arpeggiata dans tous les projets, tous les deux projets, parce que premièrement, je pars d'un choix des artistes avec lesquels je voudrais faire un projet. Donc, j'ai fait mon choix des chanteurs que j'invite. Et en fait, une fois que j'ai décidé ça, j'ai commencé à travailler sur les pièces que je pense vont mieux avec la voix des certains chanteurs.
Il y a une discussion, enfin un débat avec eux un petit peu, comment ça
aussi
se passe?
Oui. De toute façon, ça c'est un principe des arpeggiata aussi, c'est, disons, les artistes sont très libres aussi de discuter avec moi, de partager mes choix, de dire ce qu'ils pensent. Il y a toujours un grand discours entre moi et tous les artistes, les chanteurs aussi, les instrumentistes. Mais bien sûr, comme directeur artistique, moi j'ai j'ai mes visions aussi, mes idées, qui est peut-être les gens même, les chanteurs même ne le voient pas. Donc c'est un petit peu mon travail en fait, de mettre tout ça en place et ensemble et faire des choix, parfois aussi pour eux, qu'eux ils ne pensaient pas de faire tout seul. Voilà.
Justement dans cette mise en son, qui est presque une mise en scène en fait, puisque effectivement, comme vous l'avez dit, chaque projet a vraiment une présentation. Alors c'est vrai que c'est cliché à dire, mais il y a une modernité dans cette musique qui est incroyable et qui je pense en plus est encore plus presque boostée par la manière dont vous agencez les pièces. Les insertions de sorte d'un petit interlude instrumentaux, etc. Est-ce que derrière, il y a, alors évidemment c'est personnel, c'est quelque chose entre vous, les autres interprètes, mais est-ce qu'il y a aussi une volonté de passeur, c'est-à-dire de montrer aux gens, alors c'est vrai que c'est Monteverdi qui est un peu plus connu, mais malgré tout, de montrer aussi aux gens du 20e et 21e siècle, il faut dire maintenant, la modernité et la manière dont cette musique peut les toucher aujourd'hui.
En fait, effectivement, ça c'est une autre ligne que Arpeggiata défend depuis les débuts. Moi, je suis fascinée par cette musique parce que je retrouve une telle modernité. Et ce n'est pas que je fais uniquement pour montrer que c'est moderne. Pour moi, cette musique est moderne.
D'ailleurs, dans le livret, vous citez un exemple juste comme ça. C'est, vous parlez de la basse obstinée qui fait référence à la walking bass en jazz. C'est un exemple, mais qui est quand même assez frappant, quoi.
Mais c'est pas moi qui ai inventé ça. C'est vraiment Monteverdi qui a écrit ce walking bass. Et puis, effectivement, si vous voulez, on s'est permis dans les disques de faire une petite blague avec cette pièce pour, c'est une petite exagération de montrer le public qui ne connaît pas du tout Monteverdi qu'il y a vraiment une grande ressemblance entre la musique beaucoup plus moderne et Monteverdi, et que Monteverdi vraiment a inventé des choses qui d'autres gens, beaucoup des siècles plus tard, on pense, étaient complètement inventées, mais c'était déjà tout inventé par lui en fait.
Quand vous préparez un projet, alors évidemment, c'est vrai que ce projet en l'espèce n'a pas été, il n'y a pas de précédent. Est-ce que, si on prend les pièces une par une, comment vous préparez vos albums? Est-ce que, là je parle vraiment uniquement de l'enregistrement et de ça, ce qui va rester, ce qui va être gravé, quoi, comme on dit. Est-ce que vous avez tendance à écouter ce qui s'est fait avant ou pas spécialement, vous préférez pas ou... Parce qu'il y a un peu deux écoles, il y a des chefs et des interprètes et des musiciens qui ont plutôt tendance à se plonger dans les enregistrements historiques, etc. Ou d'autres au contraire qui préfèrent vraiment pas du tout écouter et rester vraiment proche de la partition et après de la liberté qu'elle peut amener.
Disons, avec un compositeur comme Monteverdi, ce n'est pas possible de s'exclure de l'évolution discographique aussi de ce compositeur. C'est très différent justement de travailler sur un compositeur connu et déjà beaucoup enregistré. Effectivement, vous n'avez pas la chance avec d'autres compositeurs comme Rossi ou Landi ou d'autres sur lesquels on a travaillé de vraiment comparer la discographie parce que ça n'existait pas vraiment. Donc, pour répondre à cette question, effectivement, moi j'ai connu bien sûr toute la discographie, quasiment toute la discographie de Monteverdi qui existe. Mais je trouve que c'est très important pour un musicien de musique ancienne vraiment de pouvoir aussi se placer dans l'évolution de l'interprétation de cette musique parce qu'on en fait partie. On ne peut pas exclure toutes les influences avant nous, bien sûr. Et on doit aussi être conscient que ça ne finit pas avec nous. Donc il y aurait d'autres personnes après qui apportent totalement une autre vision, certainement.
Est-ce que vous avez des interprètes fétiches sur un répertoire comme Monteverdi qui vous passez, ou proches, peut-être même contemporains?
moi, je suis vraiment ouvert et intéressé par toutes les artistes qui ont travaillé sur les compositeurs du XVIIe siècle. Mais bien sûr, je défends mes propres projets parce que je ne trouve pas toutes les réponses. Bien sûr, hein, mais après, c'est vraiment une question personnelle, des goûts et des opinions et de recherche de certaines choses comme les couleurs ou les couleurs des voix, etc.
Il y a sur cet album, évidemment, la voix est centrale, mais il y a une manière, effectivement, où parfois l'orchestration est vraiment... il y a toute une retenue qui met encore plus en avant cette voix, dans le Lamento de la Nefa, par exemple. Il y a vraiment des passages où la subtilité de vos arrangements, vraiment, sont une sorte d'écrin pour les voix. C'est quelque chose qui est essentiel pour vous, cette manière, justement, d'amener la poésie et la musicalité de la voix, comme ça, et même du texte, également.
Oui, tout à fait. Pour moi, cette musique, de toute façon, ça part du texte et de la poésie. Hein. Donc, quand je commence à étudier un compositeur ou des nouvelles pièces, etc., j'ai étudié d'abord la poésie, hein, la structure de la poésie. Voilà, j'analyse tout ça, j'apprends très bien les textes. Et après, les chanteurs doivent faire le même chemin, bien sûr. Hein, donc, les chanteurs, c'est l'acteur, c'est lui qui porte la parole et qui doit... porter l'émotion en racontant justement l'histoire ou les textes. Mais pourquoi j'adore tellement cette musique vocale du XVIIe siècle, c'est parce que en fait le texte, les chanteurs et les passo continuo, c'est-à-dire l'accompagnement improvisé, est en dialogue constant. Toutes les décisions doivent être faites ensemble. Hein. C'est pas un qui est plus important que l'autre. Donc c'est ça, et c'est ça ma passion principale pour cette musique, c'est justement ce dialogue avec les chanteurs en cherchant la théâtralité, en cherchant la couleur qui met en valeur les voix, etc. Tout ça.
Il y a des débats parfois sur ces interprétations entre chanteurs et vous, et parfois des discordes, pas des disputes, mais des discordes où tel chanteur va plutôt avoir envie de telle couleur et vous voyez ça différemment, ça arrive ?
Je dois dire, point de vue couleur et accompagnement, ils me font très confiance. Donc, mais effectivement, je cherche à travailler avec les artistes chanteurs avec lesquels je peux avoir vraiment des discussions.
Discussion, hein?
C'est vraiment, pour moi, c'est fondamental. Je ne cherche pas des chanteurs qui n'ont pas d'opinion et où il n'y a pas de dialogue possible. C'est ça qui est enrichissant. Et en fait, c'est-à-dire les choix des chanteurs, c'est vraiment des choix des personnes qui ont la même passion que moi pour cette musique et qui ont une volonté vraiment de découvrir, d'aller plus loin, de ne pas se satisfaire à une interprétation standard à laquelle on s'est habitué, parce que je pense qu'il y a des choses encore à faire et à chercher. Je ne sais pas si on arrive à les trouver, les réponses, pas du tout, mais j'ai envie de chercher. Et par exemple, en citant la collaboration là avec Philippe Charousse, qui est très fort avec notre ensemble et qui, je pense, on capte cette plaisir de faire la musique ensemble sur ce disque. Mais par exemple, l'interprétation qui est très discutée en ce moment de Oimei Yokado, qu'on a fait, où on s'est permis de faire une petite blague avec un regard très moderne sur cette pièce. En fait, c'était une évolution assez longue parce qu'en fait, on a commencé à interpréter cette pièce dans un autre programme. Ce n'était pas dans les programmes Monteverdi, mais dans les programmes à l'improviso, qui inclut aussi un musicien de jazz. Non, et donc, Philippe a fait des spectacles. Il n'a pas fait le disque, mais il a fait des spectacles avec nous. Et donc, moi, j'ai senti, quand j'ai fait la première fois ce spectacle avec Philippe Charousky, que cette pièce, Omiokado, ça va lui très bien, d'accord ? Donc, il ne connaissait pas, donc je lui ai proposé d'étudier ça. Et après, effectivement, c'était dans le contexte où il y avait Luigi Lagaliazzi, Gianluigi Trovesi, enfin plein des artistes comme ça dans les spectacles. Et bien sûr, on a tout de suite commencé à voir cette possibilité que cette pièce peut aussi se faire avec une couleur très, très moderne, avec des improvisations très modernes. Mais en fait, on a discuté pendant des journées. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut faire un truc comme ça? Finalement, après vraiment des longues discussions et des longues réflexions, vraiment avec lui ensemble et aussi avec les autres musiciens aussi, on a dit, dans les premiers concerts qui étaient à Paris, à la salle Caveau, on a dit non, ça va trop loin, on va faire une version baroque. Donc on a fait dans les concerts une version très baroque, avec des improvisations cornées très baroques, etc. Lui aussi dans sa vocalité. Et donc c'est une très belle version. Sauf qu'à la fin du spectacle, Lucilla Galeazzi avait fait craquer la salle. Et puis Philippe Charouz qui s'était à son tour donc de faire un pis. Et donc c'est vraiment là, à ce moment-là, où Philippe a compris que voilà, pour maintenant communiquer avec le public encore plus et encore plus fort, il s'est vraiment improvisé et inventé sa version. Hein. Donc cette version qui va très loin. Et voilà. Mais juste pour vous expliquer, c'est ça qui est intéressant avec des artistes, avec des chanteurs, c'est ce dialogue, c'est arriver, c'est de pas exclure certains expériments, certaines idées. Et après, bon, après tout ça, c'est vraiment un chemin qu'on fait ensemble. Voilà.
Cette façon de jongler avec la liberté, c'est un peu comme... c'est quoi les limites qu'on se pose quand on se pose justement des questions? Est-ce qu'on a le droit? Est-ce qu'on n'a pas le droit? Est-ce qu'on peut? Est-ce qu'on peut pas? On a l'impression qu'on manipule une sorte de bombe en se demandant enfin, comment on se pose des limites?
Ça, c'est une question extrêmement difficile que, bien sûr, tout le monde est en train de me poser en ce moment, c'est clair. Parce que, effectivement, d'inclure une version comme ça dans un disque sérieux de Monteverdi, est-ce que j'ai déjà dépassé peut-être cette limite ou pas? Je ne sais pas. C'est une question très philosophique qui est très très difficile à répondre, bien sûr, parce que tout dépend comment c'est fait. Hein? Parce que si maintenant on donne bien sûr la liberté à tout le monde de dire on fait un Monteverdi en jazz et c'est pas bien fait, ça vient très vite très ridicule, bien sûr. Non? Donc je pense que c'est à chacun vraiment de réfléchir à ça.
Est-ce que vous-même, vous arrivez à répondre facilement? Est-ce que vous-même, vous vous posez vos propres limites? Ou ça dépend finalement des projets?
Bah écoutez, pour moi, c'est très simple. C'est, si j'ai des artistes comme j'avais dans ces disques avec moi, comme Philippe Charouz qui est Doron, moi, je pense de pouvoir dire, et je pense que les gens le ressentent aussi, c'est quand même vraiment des très grandes interprètes. Donc la version est belle. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez sur les goûts et tout, mais vous pouvez pas dire que c'est mal
fait. C'est mal fait. Donc c'est un beau produit.
Donc je pense c'est par ça que les gens vont aussi comprendre pourquoi on s'est permis pour cette fois d'aller si loin, n'est-ce pas? Et pour moi, c'est tout à fait ça que je mets comme base des critères. C'est les goûts et c'est la bravoure des exécutants, des musiciens, des artistes qui sont là, qui déterminent aussi les choses et les limites.
Dans votre éducation musicale, qui vous a transmis comme ça cette passion pour ces prises de risques, est-ce que c'est un musicien en particulier, est-ce que c'est un professeur, est-ce que c'est un moment de votre éducation musicale, est-ce que ça s'est fait progressivement, ou finalement est-ce que c'était en vous depuis le début?
Écoutez, je pense il n'y a pas une personne particulière comme ça, c'est une longue évolution, mais on peut dire que c'est en moi, je pense, et c'est aussi un petit peu C'était dans l'esprit de la musique ancienne quand j'ai commencé. C'est un truc qui s'est un peu perdu. Enfin, non, qui a élaboré, enfin, qui a changé. Mais moi et la génération juste avant moi, on est tous venus, presque tous venus du classique, et on a fui les classiques. Parce que justement, on a voulu trouver un espace pour nous où on peut faire encore des expériences avec la musique, avec plein de choses dans la musique, où on peut retrouver une liberté, où on peut nous exprimer nous-mêmes, faire partie d'une évolution, etc. Je pense, dans les dernières 10 ans, peut-être, on est arrivé à un petit danger de standardiser l'interprétation de la musique ancienne. Mais moi, j'ai gardé en moi ces petits côtés enfants terribles qui me poussent aussi à chercher plus loin. Mais ce n'est pas ma motivation principale non plus. Hein. Ma motivation, c'est vraiment... je suis aussi convaincue que y a tellement de choses dans la musique écrite du XVIIe siècle qui ne sont pas notées. Et au moins 50% des choses qui sont pas notables sur papier, comme la liberté rythmique, comme la liberté de l'improvisation, de l'ornementation, la théâtralité, la transmission de l'émotion du texte, etc. Hein? Tout ça, on ne sait pas, on ne sait pas où la vérité de l'interprétation, on a perdu ce langage, non? Et en cherchant dans d'autres musiques, dans d'autres styles, j'espère éventuellement trouver quelque chose de l'esprit de l'époque. Vous voyez ? Parce que l'esprit de l'époque, il ne faut pas oublier que c'était une phase dans la musique où tous les compositeurs cherchaient à transformer totalement le style précédent. Donc ils étaient vraiment dans la création de quelque chose de complètement nouveau. C'est la naissance de l'opéra, c'est la naissance du recita cantando, c'est l'abandon de plein de règles que la musique avait impliquées dans les siècles précédents. Et c'était une grande réflexion. Il y avait toutes ces académies autour de Monteverdi et d'autres compositeurs qui invitaient donc les peintres, les poètes, les musiciens. Enfin, c'était un échange avec d'autres arts aussi, et un grand soif de trouver quelque chose de nouveau.
Intéressant dans votre projet, c'est que c'est pas uniquement montrer aux mélomanes du 21e siècle toute la richesse que vous venez de décrire du Seicento, mais c'est aussi, même d'une certaine manière, faire vous-même presque un peu de la musique comme elle était faite pendant ce siècle.
C'est-à-dire on prend encore plus la place d'un créateur. Hein, donc on prend bien sûr la musique écrite par Monteverdi ou d'autres compositeurs du XVIIe siècle, mais les compositeurs à l'époque ont laissé plein de choix libres à l'interprète. Par exemple, vous regardez presque toute la musique instrumentale, quasiment jamais les compositeurs mettaient en fait la couleur de l'instrument qu'ils voulaient. Hein, parfois c'était juste noté canto ou basso, mais c'était pas précisé si c'était les violons ou les cornets, etc. Non, donc de toute façon, cette musique-là est pleine de liberté de l'interprète. Non? Mais là, je vous parlais encore de plus de liberté, c'est-à-dire Pour moi, la musique ancienne aujourd'hui, c'est quand même la musique actuelle. Hein. Il y a des choses qui se passent, il y a des réflexions qui se passent. On ne sait pas sur les compositions anciennes, mais c'est une musique très très actuelle. Voilà.
Je crois que vous enseignez toujours, enfin au conservatoire. C'est important aussi pour vous, ça, ce côté toujours ce côté de passeur, mais ça enrichit, mais j'imagine votre personnalité musicale. Comment, à quel moment vous avez senti ce besoin d'enseigner?
Ah, j'adore enseigner, j'adore guider la nouvelle génération, et pour moi c'est très important, effectivement, comme vous dites, parce que il y a aussi beaucoup de rencontres qui se font, mais tout simplement aussi par le désir. Moi, j'ai tellement reçu des professeurs ou des gens avec lesquels j'ai travaillé que c'est vraiment aussi un désir de ma part de pouvoir donner quelque chose à la génération après moi. Et donc, j'ai partage avec eux. Pour moi, c'est plutôt un partage qu'un enseignement. Mmh. J'ai partage ma vie. Hein. Mmh. Très souvent, ils commencent aussi à travailler avec moi. Ils m'observent dans mon travail, ils apprennent plein de choses comme ça. Mmh. Et voilà, donc c'est quelque chose de très important, oui. Mmh.
Vous avez déjà d'autres projets, j'imagine, en tête pour la suite, sur disque ou sur scène?
Oui, tout à fait, il y a d'autres projets. On a d'autres projets déjà enregistrés qui vont sortir.
Quoi, par exemple?
Alors, le prochain projet qui va sortir pour Virgin, c'est un projet qui s'appelle Via Crucis. Et c'est un projet autour de la passion où on a invité des chanteurs corses. Donc, il y a les chanteurs traditionnels, les chanteurs baroques. Il y a aussi Philippe Jarousse qui nous réunit Réal. Qui chante des chants du XVIIe siècle sur la passion, mais il y a aussi des chants traditionnels.
Donc on en revient finalement un peu à Monteverdi, qui justement mêlait aussi les chants, enfin qui aussi se nourrissait de musique traditionnelle ou populaire.
C'est toute cette musique qui est basée sur ces principes.
Est-ce que quand vous ne faites pas de la musique, est-ce que vous en écoutez beaucoup, celle des autres? Est-ce que vous allez au concert? Est-ce que vous achetez ou des disques que vous téléchargez? Est-ce que vous avez une sorte de gloutonnerie comme ça, de savoir un peu tout ce qui est, où il y a des phases, ça dépend?
Ah non, j'ai travaillé beaucoup en écoutant des disques, des enregistrements, bien sûr. Je télécharge.
Sur Qobuz, évidemment.
Voilà. Et puis, j'achète aussi beaucoup de disques. Mmh. Enfin, j'ai essayé, ça fait partie de ma passion et de mon travail d'être informé aussi des choses, des actualités, bien sûr. Oui.
Qu'est-ce que vous avez écouté dernièrement qui vous a... Je ne sais pas si vous avez un iPod. Qu'est-ce que vous avez sur votre iPod ou qu'est-ce que vous écoutez en ce moment, par exemple?
Je ne suis pas très iPod.
D'accord. Alors, sur votre chaîne IFI,
j'ai un iPod, mais je ne me promène pas avec la musique. J'ai besoin d'écouter chez moi et travailler tranquillement. Mmh. Et en fait, oui, j'écoute et tout. J'écoute pour préparer mes projets, mes prochains disques, mes prochaines... concert, j'écoute pour mon plaisir. Enfin,
pour le plaisir, pour le plaisir. Qu'est-ce que vous écoutez pour votre plaisir? Quelque chose qui n'a rien à voir avec les projets pour lesquels vous travaillez, par exemple? Est-ce qu'il y a des...
Comme j'ai travaillé tellement dans la musique, c'est difficile de dissocier les plaisirs et les travails, en fait.
Il n'y a pas de frontières?
Non, il n'y a pas de frontières.
Et sur scène, donc vous avez parlé de projets de disques, sur scène, est-ce qu'il y a d'autres des projets en particulier qui... Pour cette année ou pour l'année prochaine?
Là, on vient de faire un concert à Paris qui s'appelait Carte Blanche et qui était très rigolo. On prépare nos 10 ans pour l'année prochaine aussi. Mmh. On prépare un opéra de Paris qu'on va faire aussi. Enfin, plein de nouvelles choses. Voilà.
10 ans donc l'année prochaine. Quand vous avez décidé de fonder l'Arpeggiata, quelle était l'idée initiale? C'était d'avoir une sorte de véhicule pour porter tous ces projets un peu atypiques, ou est-ce qu'à l'époque il y avait une autre idée derrière la tête?
Oui, c'est bien sûr, c'est ça. Donc de pouvoir créer des projets, moi je ne les considère pas très atypiques, hein, mes projets. Je ne sais pas.
Personnel, on va dire. Personnel.
Oui, sont mes projets, oui. Voilà. Mais je pense principalement c'était les grands désirs de pouvoir avoir la possibilité j'ai invité tous mes amis que j'adore et tous les artistes que j'adore. Donc c'est vraiment ça. En fait, c'est ça qui est vraiment génial. Parce qu'effectivement, si on travaille pour quelqu'un d'autre, c'est l'autre personne qui prend les décisions d'inviter les artistes. Là, dans les cas, si vous créez un ensemble, c'est vous qui a la possibilité de décider, voilà, je veux faire un projet avec tous ces chants formidables, et vous pouvez les faire, voilà.
Merci beaucoup, Christina Pluart.
Merci à vous.
Cobuzz.com Rencontre par Marc Zisman.